Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Laurent Gérard est avec nous dans quelques instants, mais à 8h41, c'est la revue de presse, Amandine Bégaud. Et d'abord Amandine, cette histoire qui va peut-être faire changer d'avis les plus réfractaires d'entre nous au vaccin.
L'histoire de ce petit Américain de 6 ans qui a passé 57 jours à l'hôpital, dont 47 en réanimation, tout ça parce qu'il n'était pas vacciné contre le tétanos. Ses parents étaient contre, voilà ce que raconte ce matin le New York Times. Jamais je n'aurais pensé voir cette maladie aux États-Unis, confie l'un des médecins. Le tétanos est en effet quasi éradiqué là-bas. Dans l'Oregon, par exemple, là où vit ce petit garçon, on n'avait pas vu de cas depuis 30 ans. Alors l'affaire, précise le journal, date de 2017, mais elle a été révélée ce week-end par les médecins qui se sont occupés de ce jeune patient, et ce, alors que le débat autour de la vaccination fait rage en ce moment même aux États-Unis. Tout récemment, rappelle le New York Times, c'est un adolescent de 18 ans qui a fait la une des journaux là-bas. Sa mère avait toujours refusé de le faire vacciner. Il a témoigné devant les élus du Congrès pour rappeler l'importance de la lutte contre ces fake news qui circulent autour des vaccins, et signe que le débat est bien réel là-bas. La situation est dramatique. Facebook, de son côté, a annoncé la semaine dernière sa première politique de lutte contre la désinformation sur les vaccins, dans le sillage de YouTube notamment. Aujourd'hui, près de 2 ans après les faits, le petit garçon qui avait contracté le tétanos, lui, va bien. Il va bien, mais il n'est toujours pas vacciné. La famille continue de s'y opposer. Ça paraît dingue. Dingue après ce qu'ils ont vécu. Et oui, le tétanos, ce sont d'atroces souffrances. Après aussi ce que cela a coûté, note le journal, 800 000 dollars de traitement.
À propos de santé, le Parisien aujourd'hui en France, lui, nous met ce matin en garde contre la lumière bleue.
Oui, la lumière bleue, c'est ce spectre de lumière invisible par les yeux humains, mais qui se dégage de nos écrans, les smartphones, les ordinateurs ou encore les tablettes. Il serait dangereux, favoriserait les troubles du sommeil, mais aussi l'apparition de la cataracte ou de la dégénérescence maculaire. L'Agence de sécurité sanitaire doit d'ailleurs, dit le Parisien, rendre tout bientôt un rapport sur le sujet. Le journal qui vous donne ce matin quelques conseils pour limiter les risques. Par exemple, ne pas regarder la télé dans le noir total. Et oui, ça accentue le problème. Vous pouvez aussi utiliser la fonction filtre de lumière bleue qui est désormais disponible sur la plupart de vos smartphones. C'est facile à trouver. Et puis bien sûr, ça c'est une question de bon sens, réduire le temps passé devant les écrans. Du bon sens certes, mais ce n'est pas forcément facile de s'y tenir. Les écrans sont désormais partout, y compris à l'église. Ça c'est ce que j'ai découvert ce matin dans la matinale du Monde à Quimper. Le diocèse vient de s'équiper de bornes numériques pour récolter les dons des fidèles. À l'entrée de la cathédrale Saint-Corentin, par exemple, vous avez désormais un écran tactile posé sur un pied. En un clic, vous pouvez acheter un ou plusieurs cierges juste avec votre carte de crédit. Il existe aussi un système de quête numérique, une tirelire ambulante qui est équipée d'un terminal sans contact. Il faut moins de 10 secondes pour faire un don. Objectif pour l'Église, s'adapter bien sûr aux nouvelles technologies, mais aussi et surtout gagner plus. Nous nous rendons compte, explique l'économe du diocèse, que la monnaie sonnante et trébuchante disparaît. Il faut donc s'adapter, et ce, d'autant plus que l'Église a vu ses dons baisser ces dernières années, moins 5,5% par exemple en 2018 pour le denier du culte, du fait notamment, précise Le Monde, des différents scandales de pédophilie. Alors le numérique a-t-il changé la donne? Eh bien pour l'instant, après 2 mois d'expérience, le diocèse de Quimper se refuse de communiquer le moindre résultat. Il se laisse 2 ans avant d'envisager l'installation d'autres bornes. Mais si l'on en croit le quotidien La Croix, oui, les nouvelles technologies sont un bon vecteur de générosité. Et c'est ce que nous explique le fondateur de l'application La Quête, une appli qui a été lancée en 2013, ils ont donc un peu de recul, et qui vise justement à permettre aux fidèles de donner le montant de leur choix à leur paroisse depuis leur smartphone. Les dons dématérialisés, dit-il, sont en moyenne de 5,30 €. On est à 1 ou 3 € en moyenne pour les dons en espèces, mais poursuit-il, le numérique permet surtout de toucher de nouveaux donateurs. Les paroisses qui ont installé des bornes comme celle de Quimper par exemple comptent entre 10 et 15% de nouveaux donateurs.
Des nouvelles technologies qui s'invitent jusque dans le football.
Oui, ça c'est à lire dans le magazine SoFoot, la revanche des geeks, titre le journal, qui consacre un grand dossier à ces types qui, à coup d'algorithmes et de data, veulent faire du foot une science exacte. Alors ça joue notamment, expliquent les spécialistes, dans les recrutements des joueurs. Les clubs ne juge plus seulement un joueur sur ses performances, mais en intégrant ses statistiques aux données du club. L'ordinateur, par exemple, est capable désormais de dresser un profil type du joueur à recruter en fonction des résultats du club, du reste de la composition de l'équipe. C'est ainsi, paraît-il, comme ça, j'ai découvert que N'Golo Kanté aurait été recruté à Leicester. Le club, qui cherchait un milieu terrain, a fait appel à une société spécialisée. Kanté était alors à Caen, pas très connu, hein, mais son nom ressortait plutôt bien dans les modèles statistiques, bien plus en tout cas que beaucoup d'autres joueurs plus connus. C'est passionnant, inquiétant aussi, et c'est donc à lire dans SoFoot.
Et c'était dans la revue de presse d'RTL avec Amandine Bégaud. Voici venir Laurent Gérard.
RTL Matin, 8h45.